Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 75e épisode de Torréfaction. Torréfaction, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec notre petite sélection de l'actualité. Toutes les semaines, on fait un peu le tour de tout ce qui se dit en app, en gaming, en culture, en tech avec mon ami Caf. Et puis on vient vous en parler ici pendant grosso modo une demi-heure. Salut Caf.
Salut Fasquille.
Est-ce que ça va bien?
Écoute, ça va pas mal. On reprend nos mauvaises habitudes aujourd'hui, mais ça va. On a fait pire.
C'est-à-dire on reprend nos mauvaises habitudes.
On est un peu à la bourre pour notre enregistrement.
Oui,
on est
mais ça, les gens s'en foutent en fait.
C'est pas vrai, parce que ça change des choses. Là, tu vois, après, on a faim et tout, ça s'entend.
On est un peu grognon.
Voilà, donc okay. Bon, c'est pas.
Allez, on va commencer tout de suite avec le gaming. On va parler d'Anthem et t'as plein d'infos sur la démo à nous partager.
Alors, Anthem, oui, alors faut rappeler un peu vite fait ce que c'est. On s'est un petit peu hypé, on va dire, cette semaine sur Geekzone dans le forum. J'ai fait un petit thread pour voir qui était chaud et qui était en train de compter ses sous pour savoir s'il allait acheter la bête.
Ça a bien voir.
Attention, voir ça. Abonné au service Electronic Arts, 15 euros par mois pour jouer à leur catalogue, qui moi me fait pas rêver du tout, hein, donc j'ai du mal à comprendre qu'on puisse mettre 15 balles par mois là-dedans, mais whatever. Et donc du coup, Anthem, c'est le nouveau titre de BioWare, je vais vous le faire à la française, BioWare. Et BioWare, c'est pas
et
très...
Et après, tu viens critiquer mon accent belge.
Non, ouais, je le fais jamais celui-là, mais en fait, quand tu essayes de le prononcer...
BioWare.
C'est BioWare, en plus, un petit côté guerrier et tout,
oui,
ça
complètement,
défonce,
ouais.
Tu vois. Bon, pas du tout, hein, mais c'est pas comme ça qu'il faut dire les gens, hein, d'accord, on s'entend là-dessus. Hein. Qui est leur prochain titre triple A avec... beaucoup d'argent investi depuis 2012, parce que je crois que les premières discussions, brainstorming, tout ça, c'était en 2012, on est en 2019, donc voilà. Là, j'entends tous les fans de Star Citizen qui font « Bah, vous voyez, c'est normal !» Oui, il sort là, ok, d'accord, ça n'a rien à voir. Là, il sort donc au mois de février, et c'est une espèce de mélange de plein de choses. On va dire que c'est un MMO-TPS. Ouh, mais qu'est-ce que c'est? Bon, donc, il y a des trucs un peu MMO, donc avec un univers persistant, vos personnages que vous allez équiper au fur et à mesure de vos aventures, et TPS, parce que c'est un shoot à la troisième personne. Uh-huh. Et tous ceux qui sont en train de se dire on dirait un mélange de Warframe, The Division, Destiny, n'auront pas tort, et avec un petit côté Iron Man, puisqu'on va interpréter des freelancers qui sont en fait des espèces de mercenaires, mm-hmm, qui pilotent des mechas. Les mechas, ils s'appellent des javelines, parce que tu vois, faut donner des noms à tous les trucs, hein, quand tu crées un univers, c'est important pour que les gens s'y retrouvent pas. Mm. Et les différents mechas vont avoir des noms en fonction de la taille de la bestiole, et donc c'est un peu comme ton pote Tony Stark, il a des grosses armures, des petites armures. Bon bah là, il y aura trois modèles si j'ai bien suivi, il y a les colosses, il y a les intercepteurs, et puis l'autre, j'ai oublié son nom parce que je pas noté parce que je suis pas très professionnel, qui permet en fait de varier les plaisirs. En gros, bah t'as la triptyque classique, hein, t'as le gros bourrin avec son bouclier qui va les tanker, t'as le truc super agile qui fait des dégâts, mais si tu lui mets une petite pichenette, il explose, et t'as le middle, the jack of all trade, c'est ça comme on dit.
Ouais.
Ah, t'as vu, c'est là j'ai tous les mecs qui nous écoutent, on vous connaît, on a les noms des mecs qui bossent à l'étranger, qui parlent anglais toute la journée avec des accents toulousains pour certains, et qui vont se marrer en se foutant de ma gueule de mon accent, mais c'est pas grave, j'ai pas assez d'entraînement en ce moment. Et du coup, ces armures-là sont interchangeables, contrairement à Destiny où tu joues des classes séparées et il faut monter tes personnages séparément. Là, t'as un mec en slip et qui peut rentrer dans chaque armure tranquillement. Donc, quand tu pars dans une mission, bah, tu peux t'organiser avec tes potes. S'il y en a un qui a pas envie de jouer telle ou telle armure, il y a pas de souci, on va s'arranger. Mmh. Je voulais en parler parce que bah, ça se profile comme étant une grosse sortie du début d'année. Une des plus grosses sorties de BioWare depuis très longtemps et l'énorme fiasco dont je sais que ça fait du mal aux gens quand on parle de titres que tu attends pendant des années et puis ça se révèle être des grosses bouses. Donc on l'appelle le troisième épisode dont on ne cite pas le nom, les gens savent de quoi je parle. et du coup, maintenant, ils se rachètent une crédibilité avec ce titre. En tout cas, ils espèrent. Et on va pouvoir tester ça très, très bientôt, puisque si le jeu sort le 22 février, si je ne dis pas de bêtises, il y a la démo VIP qui démarre ce soir pour nous. Alors, j'ai pas exactement... Je crois que c'est 5 heures heure française, mais c'est dans ces eaux-là. Ça doit être 5 ou 6 heures. Et qui va durer jusque dans la nuit de dimanche à lundi, qui est une démo VIP. Alors, démo VIP, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait des invitations qui traînaient un petit peu partout. On en a échangé sur le forum de Geekzone, comme quoi il faut passer sur le forum pour tester la bestiole, puisque nous avons des gens qui travaillent chez Electronic Arts en plus, donc il y a des trucs qui tombent de temps en temps du ciel, qui sont donc sur le forum. Et puis, il y aura une démo ouverte, donc qui sera plus facilement accessible. Cette démo ouverte, normalement, ça sera dans le week-end du 1er au 3 février. Là encore, alors apparemment c'est même 5, c'est 16h, c'est même pas 17h, c'est 16h, donc demain, enfin ce soir ça doit être pareil, et ça se termine dans la nuit du dimanche au lundi à 3h du matin, donc voilà, vous pourrez presque être frais lundi matin si vous êtes accro. Évidemment pas la peine de vous dire que vous allez prendre de l'avance pour la sortie commerciale, car tout sera wipé,
c'est alors
évidemment, puisqu'en plus on commence au level 10 je crois, et on nous prévient qu'il y a des petits problèmes, entre autres dans les contrôles de vol sur PC. Apparemment le contrôle clavier souris est pas du tout réglé correctement pour la démo, donc il faudra plutôt prendre son pad si on a des problèmes avec ça. On nous prévient aussi qu'il va y avoir des soucis sur l'économie, enfin tout ce qui est économie, combat, etc. n'a rien à voir avec le jeu final. Tout, ça va être plus facile de gagner de l'argent, plus facile de tuer des ennemis, etc. Mmh. En gros, on nous prémâche le travail pour qu'on voit le plus de contenu possible en 3 jours.
Logique.
Ce qui est assez logique, effectivement. Et si vous aurez écouté ce podcast dans votre métro, train, voiture préférée, ou bref, qu'il est 8h du matin et que notre WordPress nous a pas planté, eh bien, écoutez, vous pouvez télécharger la démo déjà si c'est pas déjà fait, puisqu'on pouvait la précharger. Donc, ça marchera et pour la démo d'aujourd'hui et pour la démo de la semaine prochaine. Voilà, et donc ça se trouve, la semaine prochaine, on dira que c'était vraiment de la merde et qu'il fallait absolument pas y aller. Hein. Mais on a un petit côté hypé parce que tu vois, on arrive là, ça fait un petit moment qu'on est en train de poncer les Destiny et compagnie. Donc, un nouveau MMO jeu de shoot à loot, en fait, parce que c'est ça, hein, c'est du grind. Si ils arrivent à avoir un vrai storytelling avec des trucs qui sont un peu moins tordus que dans Destiny, ça risque d'être cool. Surtout que Destiny, je rappelle que si vous suiviez pas les sites web, etc., en fait, on comprend pas ce qu'il y a à faire dans le jeu te file aucune information. C'est génial. C'est-à-dire que des fois, je me connecte, c'est sur le Discord, on me dit, viens, on va faire la quête machin. Bah, comment tu le sais? Bah, parce que je l'ai vu sur le site. Mais quand t'es dans le jeu et que tu, bah non, il s'est pas marqué. Ah, d'accord. Donc, ce genre de jeu, je comprends, hein, maintenant, tout est connecté, tu vois. Bon, si tu suis pas le Twitter du truc, t'es pas au courant. Ouais. Bon, je trouve ça un petit peu chiant quand même, hein. Donc, je suis assez content que BioWare essaye de faire son taf. Apparemment, j'ai lu un grand papier hier qui expliquait que l'univers était censé vraiment être beaucoup plus cohérent et te donne plus de trucs à faire que dans Destiny où c'est un petit peu vacille. Enfin, c'est très très mécanique, hein, une fois que t'as fini l'histoire principale. Mmh. Donc voilà. Que ceux qui aiment BioWare et leur façon de raconter des histoires ont de grands, grands, grands espoirs dans le jeu. Moi, j'ai jamais été un énorme fan de la série Mass Effect. Enfin, non, j'ai pas dit Mass Effect 3, tout va bien. Donc du coup, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est super joli et c'est réalisé sur le moteur Frostbite, donc ça risque d'être quand même super joli.
Anthem donc, et puis on vous en reparlera la semaine prochaine quand on aura eu le temps de s'y frotter un petit peu. On passe du côté des apps et je voulais remettre une couche rapidement sur Keepa dont j'ai parlé cette semaine. C'est pas tout nouveau, mais nous on a découvert, enfin moi en tout cas je connaissais pas, j'ai découvert ça via nos forums, comme quoi ça sert parfois d'aller y traîner. C'est un site web, c'est une app mobile et c'est des extensions pour browser qui en gros garde une historique des prix sur les différents sites Amazon, des prix de tous les objets qui sont en vente, malheureusement excepté les e-books, ce qui est quand même un petit peu dommage, moi qui consomme quand même quelques-uns, mais bref. L'idée c'est donc de pouvoir suivre en fait les évolutions tarifaires de certains produits et d'être alerté par exemple quand ils dépassent un certain seuil, histoire de faire des bonnes affaires. On a aussi un onglet deals qui vous propose un peu les meilleures affaires de tous les domaines différents, qui est mis à jour régulièrement. Et comme je disais, donc l'app elle est dispo gratuitement en ligne, il n'y a pas besoin de s'inscrire, donc pour les gens qui sont très tatillons sur la vie privée, on va dire, pas de souci de ce côté-là. Et puis bah en fait, en gros, le site sert surtout à mettre en avant une API payante, c'est pas non plus, ils font pas ça non plus pour vous faire plaisir, hein. Ils essaient de vendre un service derrière qui est un service un petit peu plus poussé où vous avez un product finder qui va vous permettre donc de faire des recherches sur des produits bien spécifiques. Un product viewer qui va aussi vous permettre d'avoir beaucoup plus d'infos sur un produit, sur l'évolution de ses prix, etc. Et puis sur toute sa fiche technique, avoir accès à vraiment toutes les données, toutes les infos d'un produit. Et à des listes spécifiques aussi, notamment les meilleurs revendeurs, ce qui peut être intéressant quand on fait beaucoup de business avec Amazon. Et ça, ça coûte 15 euros par mois. Mais moi, je trouvais que l'outil, déjà, dans sa version gratuite, était plutôt utile pour surveiller, par exemple, l'évolution du prix de cette carte graphique qu'on veut absolument s'acheter chez nos amis de Amazon, en tout cas. Et comme c'est compatible avec le COM et le FR, plus plein d'autres déclinaisons nationales du site Amazon, je me suis dit que ça pourrait intéresser des gens.
Alors attention, hein, c'est pas nouveau. Il y en a plein, on sait. Vous l'avez dit dans le forum, on est au courant. Moi, j'utilise depuis des années Camel.
Ouais, c'est celui qui est revenu le plus souvent, d'ailleurs.
C'est juste que celui-là, comme le disait Fasque, il y a des extensions, etc. Ça s'intègre, c'est encore un peu plus facile. Donc voilà, mais si vous voulez venir discuter sur le forum pour propager la bonne parole, faites-vous plaisir.
Ouais, on est toujours demandeurs, d'ailleurs, c'est en général aussi pour ça aussi qu'on poste ce genre de news. C'est parce qu'on sait que derrière, on va avoir 10 suggestions d'autres outils qui, une fois sur 10, vont nous permettre de découvrir un autre outil qui est finalement meilleur que celui qu'on utilisait. Donc c'est aussi un peu à ça que ça sert.
Et comme ça, après, on fait des news et la boucle est bouclée.
Voilà, exactement. On reste dans les apps et on parle de Microsoft Office 365 qui débarque sur l'App Store.
Voilà, bah t'as tout dit, merci, voilà,
au revoir. Au revoir, passe à la suite.
Donc en gros, c'est uniquement pour préciser, parce qu'en fait, ça fait des années qu'il y a des gens qui râlent parce qu'ils veulent toutes leurs apps dans l'App Store. Pourquoi ? Parce que bah, du coup, les updates sont facilitées, tout se met à jour facilement, t'as pas un troisième, 40 000e même démon qui tourne pour savoir quand est-ce qu'il faut updater ta version de Word, etc. Donc Apple avait dit qu'il ferait des pieds et des mains pour que leurs copains Microsoft, Adobe et compagnie proposent le plus de soft possible dans l'App Store. Et Microsoft avait dit, oui, avant fin 2018, on est là. Bon, ils se sont ratés de pas très très loin. Tu vois, c'est, merde, on est en 2019. Mais ça y est, donc du coup, il y a toutes les apps qui sont dans l'App Store, donc les Word, les Outlook et compagnie. Et la seule, évidemment, restriction, c'est que du coup, il faut un abonnement Office 365 pour pouvoir les utiliser dans la mesure où on peut les télécharger, mais après, vous ne pouvez rien en faire si vous n'êtes pas abonné. C'est de bonne guerre. En tout cas, du coup, vous n'avez plus besoin de passer par le soft de Microsoft pour faire toute l'installation, les mises à jour, etc. Donc voilà, ça ne changera absolument rien pour plein de gens, mais pour les nouveaux abonnés, ça peut faciliter la transition. Voilà.
Et puis, on va parler d'un autre petit outil bien utile sur macOS pour gérer, c'est quoi, c'est gérer ses playlists musicales.
Mais même pas, c'est pour avoir enfin accès via le web à Apple Music, monsieur. Oui, monsieur, attention, la révolution, des trucs qu'on n'a pas l'habitude
d'avoir. C'est vrai qu'il était temps.
Bah oui, tu vois, alors, les mecs qui sont sur Spotify et compagnie sont en mode genre, ouais, trop fort, ouais, bravo la révolution. Mais alors attention, non seulement c'est du web et ça marche, mais c'est même pas Apple qui le fait. Donc, Apple a fait un truc qui s'appelle Music Kit, c'est un paquet d'API qui permettent d'accéder directement à Apple Music, plein de fonctionnalités qui sont autour d'Apple Music, etc. À la base, les premières API étaient faites pour le marketing de ces chansons, ça vous permettait de enfin, par exemple, embed une playlist dans une page web pour mettre en avant un album, parce que ça, c'était même pas possible encore pendant très longtemps.
Ouais.
Donc, trop merci, les trucs que vous voyez sur Spotify ou plein d'autres softs d'ailleurs, hein, SoundCloud, etc., depuis 1000 ans, bah, ça, c'était pas gérable pendant super longtemps après la sortie d'Apple Music, ce qui était bien casse-couille. Je suis désolé d'être mal poli, mais c'est comme ça. Et du coup, maintenant qu'il y a enfin ce Music Kit, il y a toute une pléthore de services qui sont développés par des gars qui ont voulu faire Mumuse, hein, finalement, avec ces API. Et Musish, c'est une des meilleures. Pourquoi ? Parce qu'ils ont repris le vrai look, entre guillemets, d'Apple. Les premiers qui sont sortis, c'était des trucs genre t'as l'impression d'être sur Spotify, donc moi ça m'intéresse pas, parce que ceux qui me connaissent l'amour que j'ai pour le design de Spotify.
C'est surtout la couleur verte en fait qui te gêne, toi. Hein.
Ouais, puis avec le noir et tout, là il n'y a pas de classification des albums, c'est pas visuel en fait. Moi ce que j'aime bien, c'est voir les pochettes des albums, c'est pouvoir. J'aime bien quand c'est joli en fait, tout bêtement. Et puis bah, Spotify, je suis désolé, je trouve pas ça joli quoi. Et Apple Music, je trouve ça beaucoup plus sympa, en tout cas sur iOS où ça marche très bien. Le problème c'était iTunes et iTunes qui continue d'avoir des fans sur la planète, je ne comprends pas, avec des trucs qui déconnent à mort. Par exemple, si tu fais une recherche dans iTunes sur des morceaux que tu as dans ta playlist ou sur ta bécane, ça va ramer, ou dans Apple Music, enfin, tu sens que le passage iTunes playlist, enfin, sur le net, ça marche pas très très bien. Donc du coup, avec Musish, t'es entièrement directement sur Apple Music, ça marche beaucoup mieux. Ben, c'est incroyable, mais c'est la vérité. Donc du coup, si vous êtes sur un PC, une machine Linux, et que ben, d'habitude vous aviez votre abonnement Apple Music et que vous éclatiez la batterie de votre téléphone, ou que vous étiez avec un client iTunes moisi dans un coin, bon ben maintenant vous pouvez tout faire sur le web enfin. Et c'est open source et c'est dispo sur GitHub pour regarder quelle tête ça a, comment ça marche. Donc vous pouvez aller faire Mumuse si ça vous chante.
Musiche, j'aime beaucoup le nom en tout cas.
Bah oui, c'est bien trouvé. Ouais.
On passe du côté de la culture et je voulais vous parler d'une série d'ici.
Je te
sens souffler déjà.
Oui,
voilà, c'est ça.
Attends, les gens se rendent pas compte. Fastkill va parler d'une série d'ici.
C'est, vrai. C'est des choses qui n'arrivent que très rarement. Non, je voulais en parler parce que pour une fois, moi, j'ai accroché. C'est la première. Alors, on va parler de Titans, donc, qui est donc inspiré des Teen Titans des comics d'ici.
Tu veux dire Titan?
Titans. Titan, qui est donc la première série originale de DC Universe. DC Universe, donc, c'est ce service de streaming dédié à DC, qui a été lancé en septembre 2018 aux États-Unis. Et je sais à quel point tu kiffes à chaque fois qu'il y a un nouveau service de streaming qui ouvre.
Mais ouais.
Donc voilà, je voulais qu'on reparle de celui-là.
Parce que nous avons tous des porte-monnaies infinies, évidemment.
Alors, la bonne nouvelle, c'est que comme le service n'est pas disponible en dehors des États-Unis, ils ont un deal avec Netflix, en fait, pour la distribution internationale. Donc, ça veut dire que la série est disponible sur Netflix, mais depuis le 11 janvier seulement. C'est pour ça qu'on en parle que maintenant, il a fallu le temps de la regarder. C'est une série qui a été développée en trio par Akiva Goldsman, qu'on avait vu notamment sur Fringe et sur plein d'autres trucs. C'est un scénariste qui est assez présent, un producteur aussi à Hollywood. Jeff Jones, qui est donc monsieur DC Comics, il chapeaute le DC Universe depuis 2016. C'est lui qui a bossé notamment sur les projets récents du DC Universe au cinéma, comme Wonder Woman 1984 et Aquaman, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. Et puis Greg Berlanti, on le connaît puisque c'est le monsieur qui a inventé le Arrowverse, donc c'est cet ensemble de séries télé qu'on peut voir sur CW et que ni toi ni moi n'aimons beaucoup, on va dire.
Ah, c'est bien. Non, moi je trouve que t'es très poli quand tu dis ça.
Ouais, mais je suis corpo. Enfin, pas corpo, mais je suis gentil avec les attachés de presse qui nous écoutent. Tout ça pour dire que bah justement en fait Titans prend un peu le contre-pied de ces séries que moi je trouve un petit peu gnangnante en fait pour être franc. C'est une série qui est beaucoup plus adulte en fait avec un traitement beaucoup plus obscur, beaucoup plus sombre. On se rapproche en fait d'un Gotham dans la thématique, dans les personnages un peu torturés. Donc c'est pas du super-héros en costume coloré qui font des bons et des combats à travers la ville, c'est un truc un petit peu plus introspectif, on va dire. C'est une série qui était en chantier depuis un moment, qui a connu plusieurs itérations avant de connaître cette version-là, parce qu'à la base, elle devait être diffusée sur TNT, et puis finalement, ça a été mis un peu aux oubliettes et réanimé en 2017, justement pour lancer le service DC Universe. C'est la première série originale du service de streaming. Et donc, on retrouve les Teen Titans, Dick Grayson, alias Robin, Starfire, Raven, Beast Boy, et puis il y a un paquet de guests aussi, tirés de l'univers DC, comme Hawk and Dove, Wonder Girl, et la Doom Patrol, qui sera en fait la deuxième série développée pour le DC Universe, et qui devrait normalement commencer sur DC Universe ce mois-ci, donc probablement d'ici 2-3 mois disponible sur Netflix. Alors si vous cherchez une série super-héros un peu dark, si vous avez bien aimé le traitement qu'on peut retrouver dans un Gotham par exemple, et que les séries CW vous laissent d'habitude de marbre, jetez un œil sur ce Teen Titans, qui est plutôt pas mal. En plus, il y a une musique assez extraordinaire signée Clint Mansell, dont je suis fan. Il y a 11 épisodes, la première saison pour le moment donc est disponible sur Netflix, et il y aura probablement une deuxième saison vu comment se termine la première saison, mais je ne vais pas vous spoiler.
Faut quand même préciser qu'il faut apprécier, supporter les effets spéciaux.
Oui,
pas,
c'est vrai.
Pas cher.
Alors tu fais bien d'en parler parce que moi c'est un truc, je sais, qui me gêne pas du tout, parce que sinon je me dis qu'on regarderait plus jamais les films d'avant 2000 en fait, parce qu'il y a quand même des trucs bien pourris quand on regarde des vieux films avec des effets spéciaux.
Ouais, mais on est en 2019, c'est pas pareil.
Ouais, mais on n'a pas les mêmes thunes non plus qu'au cinéma, donc on fait avec l'argent qu'on a, et c'est vrai que les effets spéciaux, enfin les CGI en particulier dans Titans, sont pas particulièrement réussis. Beast Boy par exemple, je le trouve assez raté, et après tout ce qui est déplacement quand les persos font des trucs de super-héros, donc quand ils font des gros jumps et des machins comme ça, c'est un peu cringy quand même. Donc voilà, si ce genre de truc vous bloque, n'y allez pas. Mais c'est con, parce que si c'est vraiment les effets spéciaux pourris qui vous embêtent, vous seriez passé par exemple à côté de grandes séries comme Battlestar Galactica. Donc c'est un peu dommage. Ah si, c'est quand même pourri quand tu regardes, c'est quand même, ça a mal vieilli aussi, on va dire.
C'était il y a plus de 10 ans maintenant.
C'est vrai.
Donc je voudrais pas te mettre un coup de vieux, mais et d'ailleurs si vous aimez l'espace et les CGI qui défoncent dans les séries télé, il y a Star Trek Discovery qui vient de recommencer. La saison 2 vient de commencer, l'épisode 1 tue la gueule. Voilà, c'était ma review
culture.
C'était ma review culture. Si vous aimez l'univers Star Trek, vous êtes un gros trekkies, fan des anciens Star Trek, il est possible que vous barriez en criant que c'est une trahison, etc. Mais pour les gens qui sont normaux, c'est plutôt bien foutu, et il y a des gros clins d'œil pour les vieux fans dans ce premier épisode, donc je suis très agréablement surpris.
Allez, on passe du côté de la tech. On en a beaucoup parlé cette semaine, un peu partout, avec des articles pas toujours faciles à comprendre. Donc, on va essayer de faire le tri un petit peu et rapidement, parce qu'en fait, pour le moment, ça repose sur des propositions et non sur des choses définitives, puisqu'on a titré un peu partout, Google va mettre fin au adblock sur Chrome. Alors, c'est pas aussi simple que ça. Ça, c'est plutôt une inquiétude, en fait, qui vient des développeurs d'extensions, justement, suite à l'annonce de Manifest V3, donc la nouvelle quoi, c'est une API, c'est ça, on peut appeler ça
ouais,
comme ça.
Ouais, c'est les outils mis à disposition des devs, les bonnes pratiques. Maintenant, les gars, il faut utiliser ce truc-là.
Voilà, et justement, dans ce manifeste V3, Google annonce que pour Chromium, donc qui est le browser open source qui sert de fondation à Chrome, ils vont remplacer en fait l'API Web Request qui servait jusqu'à présent pour toutes les extensions, notamment pour les extensions qui faisaient du blocage de publicité. Ils vont la remplacer par une autre API qui s'appelle Declarative Net Request et qui, donc sans rentrer dans les détails, est beaucoup plus restrictive sur ce qu'on peut bloquer. Par exemple, pas bloquer des médias au-delà d'une certaine taille, c'est limité à 30 000 règles, ce qui pour beaucoup est a priori insuffisant, c'est notamment ce qu'ont déclaré les gens qui sont derrière Ghostory, les gens qui sont derrière uBlock Origin, et en gros, ils sont pas très contents parce que ça pourrait signifier effectivement la mise au placard de leurs apps. Alors bon, pour le moment, encore une fois, comme je dis, c'est que des annonces, il n'y a pas encore de choses qui sont concrètes sur Chromium par rapport à tout ça, donc on verra comment ça se développe, mais pour le moment, effectivement, ça grince pas mal des dents. Ça limiterait en fait les possibilités de blocage pour ces extensions là qui seraient beaucoup plus restrictives et qui pourraient plus, comme ils disent, fine-tuner en fait leur blocage, c'est-à-dire tu pourrais plus vraiment choisir de bloquer une partie du code JavaScript, tu serais obligé de soit de tout bloquer, soit de rien bloquer, ce qui évidemment est pas très très intéressant. Alors quant à la limitation à 30 000 règles sur laquelle certains grognent, je crois que c'est le papier de Wired que je vous linkerai d'ailleurs dans le biais qui accompagne ce podcast, parlait de l'exemple de Magic Lasso sur Safari qui a priori lui serait limité à 50 000 règles et ça a l'air de bien se passer, donc ils disent que finalement 30 000 c'est peut-être pas si peu que ça en fait.
On a déjà des limitations du côté de Safari par exemple, ça se passe plutôt bien, mais effectivement faut optimiser, donc il y a des règles optimisées. Par exemple, si vous installez AdGuard, qui est clairement le meilleur dans l'univers iOS, macOS, etc., dans les gratuits, AdGuard a des règles optimisées qui permettent de contourner cette problématique, et que ça fonctionne très très bien. Et je rappelle que Apple a mis en place depuis très longtemps une API spécifique pour le blocage de, ils appellent ça pudiquement le blocage de contenu, et ça marche très bien. Donc si les mecs de chez Google sont pas complètement débiles, ils vont faire quelque chose qui va être bordé dans le même sens pour éviter en fait justement les débordements et certains adblocks qui font un peu des excès de zèle et qui font n'importe quoi. Donc d'ailleurs, nous avons une conversation un jour, il va falloir qu'on se penche sur la gestion des listes qui alimentent les adblocks. Apparemment, il y a des choses rigolotes à découvrir dans l'histoire.
Comment tu teases?
Oui, parce que pour l'instant, on n'a pas creusé, donc on va fermer notre bouche.
Bah, là, pour le coup, je voulais en parler parce que tout le monde en a parlé cette semaine et c'était juste un peu pour dire aux gens, calmez-vous. Ouais. Pour le moment, il n'y a encore rien de grave. Ce qui est grave, en somme, ce qui est surtout grave, c'est que vous utilisiez encore Chrome, mais ça, c'est mon avis personnel.
Ça, c'est Go fait. Firefox.
Voilà, Firefox ou bien même Vivaldi en attendant, hein, tu vois, ça reste Chromium, mais même ça marche plutôt bien. Ouais.
Ça marche plutôt bien, et puis si vous êtes sur Mac, Safari, ça a fait le café, il faut juste savoir l'utiliser. Je crois qu'il y a un dossier sur, geekzone.fr.
Bon, qui nécessite ça.
Qui n'est plus complètement à jour, je l'avoue, d'accord.
Allez, on reste dans la tech, je voulais parler, mais alors très très vite, parce que j'aime bien me moquer de Twitter, et donc quand il y a moyen de se moquer de Twitter, je le fais.
C'est très facile de se moquer d'un truc qui est en train de se rouler par terre.
C'est vrai, mais j'aime bien quand même. Donc voilà, ils ont découvert il y a quelques jours, on peut dire ça, puisque c'était ce mois-ci, une nouvelle faille qui serait présente depuis novembre 2014.
Oups,
pas mal. Et en gros, ça concerne donc les utilisateurs de l'application Twitter sur Android. Là aussi, on va pas vous juger, mais un peu quand même. Et en gros, ce qui se passe, c'est que quand tu changeais certains settings de ton compte via cette application, par exemple ton adresse email, parce que tu as changé d'adresse email, ça pouvait désactiver en fait l'option Protect Your Tweets. Donc je sais plus comment c'est traduit en français, mais c'est ce truc qui permet de passer finalement d'un compte public à un compte privé. Ça l'a désactivé en ninja sans te prévenir, et donc si tu faisais pas attention, tu te retrouvais avec ton compte en public et tout le monde pouvait le lire, alors que c'était pas vraiment ce que tu voulais faire à la base. Donc voilà, ils ont fixé le truc depuis, mais quand même une faille qui a traînait un petit moment et qui a probablement dû surprendre certaines personnes qui pensaient communiquer en privé et qui finalement se sont retrouvées avec leur truc en public. Bon,
si le truc a survécu depuis 2014, je me dis qu'il n'y a pas grand monde qui a dû perdre son boulot grâce
c'est
à ça.
Grâce aussi.
À ça. Oui, grâce à ça. Mais effectivement, ça fait tâche quand même.
Ouais, et ça ne concernait pas effectivement les gens sur iOS, ça ne concernait pas non plus les gens qui utilisaient la web app. Donc voilà, c'était vraiment très spécifique à Android, mais je voulais en parler parce que j'aime bien me moquer de Twitter. Voilà. On termine sur la tech toujours avec alors je sais pas de quoi tu vas me parler parce que j'ai vu ça dans la conduite et moi ça m'intrigue donc
on va parler de smartphone facile.
Oui, d'accord, ça OK, mais ça j'avais compris, mais le poinçon débarque sur Android après le notch. Alors là il va falloir que tu m'expliques. Alors, qu'est-ce que le poinçon?
Et en fait, bah c'est hyper drôle, donc pour mettre les caméras sur la face avant de nos téléphones, notre ami Apple, tout le monde s'est moqué, mais ils avaient mis sur l'iPhone 10 cette fameuse encoche.
Ouais.
Pour mettre tout le système Face ID, la caméra selfie, toutes ces conneries.
Ça, je
savais.
Et
voilà, donc du coup, tout le monde s'est moqué. Et puis après, surtout donc les fans d'Android, qui après ont pleuré des larmes de sang, puisque tous les putains de constructeurs Android se sont mis à faire du notch, donc de l'encoche, partout. Et c'est vraiment pas la meilleure idée qu'aient eu les développeurs de smartphones. On est quand même assez d'accord là-dessus.
Bah, surtout qu'elle sert à rien sur la plupart des modèles en plus. Donc
c'est ça qui est drôle, parce que sur iPhone X, c'est ce qu'on avait dit à l'époque, sur iPhone X, il y a une réalité technique, il y a un besoin. Sur les trois quarts des autres téléphones, c'était juste pour faire comme Monsieur Apple, c'est pour piquer le look, même quand il n'y avait aucun besoin de piquer le look à l'époque. Donc c'était assez rigolo. Et puis, bah, depuis, ils sont rachetés un cerveau, en tout cas chez certains. Donc il y a des mecs qui font des téléphones avec absolument rien, avec l'écran qui prend vraiment toute la surface du téléphone, avec des caméras escamotables derrière. Donc il y a plein d'espèces de trucs qui sont des idées rigolotes, mais qui sont propices à se casser, en fait, hein, aussi. Parce que c'est les caméras escamotables ou tous les petits trucs qui peuvent bouger dans un smartphone, on sait très bien comment ça se termine. Généralement assez mal. Et là, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire cette fois pour avoir notre caméra, mais que ça soit pas hideux ou que ça soit pas pareil, tout bêtement. Du coup, maintenant, nous allons voir les poinçons, c'est-à-dire que tu vas avoir des téléphones avec un petit rond au milieu, enfin, pas au milieu évidemment, mais en haut de ton écran, à droite, à gauche, etc. Tu auras un petit trou dans ton interface, en fait, vraiment dans l'écran, avec des pixels allumés au-dessus, etc., qui va être en fait la place de la caméra, tout bêtement. Donc, ça fait un effet assez bizarre, alors que je crois que j'aime encore moins ça que les encoches. Au moins l'encoche est clair, tu vois. Bon bah là on n'y va pas. Alors que là t'as l'espèce de truc qui peut venir en plein milieu de l'écran, mais du coup bah l'OS doit être au courant que c'est là, parce que s'il essaye d'afficher une information ici, ça va pas le faire. Donc de toute façon toute la zone autour elle est morte entre guillemets, parce que tu vas pas t'amuser à aller jouer un truc full screen. Mais les mecs disent mais si bien sûr on peut mettre une vidéo full screen, y a pas grave, c'est un tout petit point noir, on voit pas.
Je mate les photos sur le grand modèle, c'est quand même un gros carré noir, quoi. Ça fait un paquet de pixels morts.
Ah bah oui, bah j'allais y venir. Donc là, de quel téléphone on parle? C'est l'élite du Samsung S10, S10 Plus, mais ce ne sera pas le seul modèle avec un poinçon. Il y a déjà des marques chinoises qui ont montré des trucs avec des petits objectifs directement dans l'écran. Et du coup, sur le S10 Plus, bah, c'est plutôt un petit rectangle, quoi. Donc, c'est pas jojo. Hein. Genre, ça me fait pas rêver comme système.
Bah, moi, je me pose vraiment la question de savoir quelle est la légitimité. Enfin, je comprends l'idée d'avoir un écran de plus en plus grand, mais si ça se paye si c'est pour troquer ça contre des trous dans l'affichage, je vois vraiment pas l'intérêt, quoi.
Bah voilà, d'où l'intérêt d'avoir soit des technos qui permettent d'avoir les objectifs carrément dans l'écran, mais de pas être obligé de faire un trou dans la dalle. Hein,
oui.
Peut-être un jour ça va venir, mais là pour l'instant on n'y est pas. Je vous rappelle que la révolution, ça sera déjà d'avoir des capteurs d'empreintes digitales dans l'écran qui soient vraiment fonctionnels et rapides. Pour l'instant, ça galère un petit peu, mais ça vient. Donc pourquoi pas? On peut rêver, peut-être que cette techno-là arrivera aussi pour les appareils photo. Et la blague, c'est qu'effectivement, en attendant, les mecs, je te dis, cherchent des systèmes avec des trucs escamotables, des caméras qui sortent du corps du téléphone.
Mmh.
Donc bon, je t'avoue que c'est pas gagné hein, pour l'instant. Les retours sont assez moisis. Donc du coup, je pense qu'on va bien rigoler dans les années à venir, parce que bah, le marché du smartphone, il est au plafond. Donc quand même quasiment tout le monde dans les pays classiques est équipé, donc du coup ça commence à stagner chez tout le monde. Il y a la Chine qui serait soi-disant en récession, donc forcément le marché chinois il est pas aussi magique que prévu. Donc tout le monde s'est foutu de la gueule d'Apple quand ils ont annoncé que finalement ils allaient gagner quelques milliards de moins. Bon, je vous rassure, ils ont pas perdu quelques milliards. Hein. Ils ont gagné quelques milliards de moins, ça n'a rien à voir.
Oui, c'est ça. Ouais.
Bon, la semaine d'après, après tout le monde, pendant une semaine, tout le monde a gueulé en genre « Oh là là, Apple va mourir !» et tout. Ouf, non. Et la semaine d'après, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu Samsung qui a annoncé exactement la même chose. Là, ça a beaucoup moins fait couler d'encre. Hein. C'est bizarre, hein. c'est pas aussi vendeur, bref. Et en fait, tous les constructeurs ont un problème avec le marché chinois actuellement. Et c'est normal puisque tous les marchés de smartphones, et encore plus quand le pays va pas super bien, vont commencer à stagner. Donc là, la prochaine révolution après les encoches, je vous préviens tout de suite, c'est les smartphones qui se plient. Parce que malheureusement, nous avons les écrans pliants qui vont débarquer. Il y a eu les premiers modèles, on en a vaguement parlé dans un podcast précédent avec un truc qui s'appelle le Royal. Royal, déjà ce nom c'est compliqué. Le FlexPi, FlexPi, je sais pas comment dire.
Je sais pas, Royal FlexPi, ouais.
Ouais, ça... tu vois, qui est okay. Un des premiers smartphones pliants, qui est donc une monstruosité. Hein. C'est vraiment très très moche, le software déconne complètement dessus, et puis une fois qu'il est plié, bah, il fait 40, enfin, c'est énorme quoi. Ça ressemble à rien, donc il n'y a aucun intérêt. Xiaomi est allé aussi des petites démos cette semaine avec un téléphone qui se plie en deux parties. Le mec, c'est un mec qui regarde une tablette, si tu veux, et la tablette se plie en deux, enfin en trois du coup, et ça devient un smartphone à peu près classique quand il tient en sa main. Mais bon, il évite de montrer l'épaisseur du truc, hein, tu vois, parce que je te confirme que ça se plie pas vraiment comme une feuille de papier. Et donc le vrai test sur ce concept, ça sera le mois prochain, puisque Samsung est censé présenter un projet du même genre. Donc je pense qu'on va bien se marrer. Et Huawei a annoncé bosser aussi là-dessus. Mais moi, mon préféré dans toutes ces histoires d'écran pliant, c'est Motorola, qui veut ressortir le Razr. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce flip phone, ce emblématique des années 2000, qui était donc le truc avec le StarTAC qui avait tellement la classe. Et le Razr, apparemment, il se susurre qu'il y a un modèle smartphone-like qui va sortir, dépliant, qui coûterait dans les 1 200 $. Parce que pourquoi pas, la nostalgie fait vendre, alors on va y aller au max au niveau prix, tout va bien se passer, ça passe comme une lettre à la bosse. Donc à partir du mois prochain, je pense qu'on va commencer à rigoler, à avoir des trucs un petit peu marrants du côté smartphone, même si ça va être voué à ne jamais se vendre. J'ai vu passer un téléphone sans trou aussi du tout, une annonce de téléphone comme ça qui n'a aucun trou. Alors quand je dis aucun trou, c'est vraiment aucun trou, donc il n'y a pas de port pour le charger, ah oui. Il n'y a pas de prise jack, il n'y a pas de grille pour les speakers. Et il n'y a pas de truc pour mettre une carte SIM, tu vois. Donc ça va être pratique. Donc les mecs veulent pas le vendre en vrai.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Je crois que c'est un téléphone chinois. Genre, regardez nos téléphones, il est trop beau. Mais en fait, c'est une façon de faire de la pub. Parce que ça fait. Il y a déjà plein de mecs qui ont commencé à en parler sur les sites de tech. Alors que, trouve-moi sur la planète le nombre d'opérateurs qui supportent les eSIM. Je crois qu'il y en a 12. Hein. Donc, en termes de marché, ça va être très, très, très limité. Mais voilà, les mecs, tout le monde va parler d'eux. Leurs téléphones, ils vont en fabriquer 50 et ça suffira, c'est pas grave. Mais il a l'air joli, hein, comme ça. Mais bon, c'est un téléphone Android de plus et tous les fabricants de téléphones Android ont le même problème, c'est comment se démarquer par rapport à leurs petits voisins. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que le marché va se durcir aussi de ce côté-là.
Et c'est la fin de ce 75e épisode de Torréfaction. On se retrouve la semaine prochaine, dès 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. Et d'ici là, bon week-end. Tu vas jouer à mon thème, toi, du coup?
Bah ouais, je pense que je vais poncer la démo et la semaine prochaine, on verra.
Petit débrief.
Si j'étais content. Et je crois que tu as un accès aussi. Peut-être que nous allons réussir à jouer ensemble.
Peut-être, qui sait. Les magies de la technologie nous permettront peut-être de.
Ou alors les serveurs marcheront pas, comme d'habitude, avec ce genre de truc. On verra bien, ça sera la surprise.
Allez, bon week-end. Ciao.
Ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Les clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du theorycrafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr. On vous y attend, amis True Believers.
I care how you speak. Loki is beyond reason, but he is of Asgard, and he is my brother.
He killed 80 people in 2 days.
He's adopted.